Les pieds sur terre, Sonia Kronlund
et Delphine Seltel.
Des histoires, des enquêtes, des reportages.
Parce que c'est comme ça que les choses arrivent.
Cette émission n'aurait pas été la même sans La Supplication, le livre que la journaliste biélorusse Svetlana Alexievitch a consacré à la catastrophe de Tchernobyl en 1997. C'est un peu notre modèle au pied sur terre, Svetlana Alexievitch, la référence ultime. Elle a eu le prix Nobel de littérature en 2015, mais à notre petit niveau, on s'inspire beaucoup de son travail. Souvent, on pense à elle, au fait que pour écrire ses livres, elle utilise un magnétophone. Elle enregistre les personnes qu'elle rencontre, plutôt les gens dans l'obscurité, ceux qui ne sont pas pris en compte par l'histoire officielle, ceux à qui souvent on ne demande rien. Elle collecte leur histoire et dans ses livres, elle retranscrit leurs mots, leurs formulations exactes. Ce côté verbatim, parole brute, ça nous guide beaucoup, tout comme d'ailleurs sa méthode d'interview. Svetlana Alexievitch explique, je cite, qu'aux gens qu'elle rencontre, elle ne pose pas des questions sur le socialisme ou l'ère soviétique, mais sur l'amour, la jalousie, l'enfance, la vieillesse, sur la musique, les danses, les coupes de cheveux, sur les milliers de petits détails d'une vie. Selon elle, c'est la seule façon d'insérer la catastrophe dans un cadre familier et de pouvoir la raconter à tout le monde. Ça aussi, ça nous parle. Alors, on essaye de faire pareil, à notre petit niveau, bien sûr, mais on y croit. Aujourd'hui, à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, le plus grand hôpital d'Europe, 1500 lits en temps normal et presque 10 000 employés. Tous ne sont pas capables d'intuber un mourant, mais tous sont à un rouage dans la grande machinerie qui consiste à soigner les gens. Il y a des menuisiers, des lingères, des standardistes, des vigiles, des perfusionnistes, des jardiniers, des métiers prétendument modestes, en tout cas en pleine période de Covid-19, moins sous le feu des projecteurs que les médecins réanimateurs. Alors c'est eux que nous écoutons aujourd'hui, en tout cas trois d'entre eux, percutés de plein fouet par l'épidémie, mais chacun à son poste, jusqu'à 14h, à la Pitié-Salpêtrière et au micro de Stéphanie Thomas.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Alors, l'hôpital de la Pitié, c'est 33 hectares, c'est 95 bâtiments, c'est 9000 personnes qui y travaillent. Et sous l'hôpital, donc, on a 17 km de galeries, dont certaines ne sont pas accessibles au public. Donc, il n'y a que nous, techniques, qui avons accès. C'est un gros village. Donc, je m'appelle Philippe Figueredo, je suis le responsable des services techniques de la Pitié-Salpêtrière. Toute la partie maintenance donc, qui va du chauffage, climatisation, plomberie, traitement d'eau, électricité. Donc on fait du pilotage d'installation à distance, téléphonie et j'ai les fluides médicaux, j'ai la menuiserie, plomberie, serrurerie, organigramme. Donc disons qu'on s'occupe de faire fonctionner l'hôpital 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, puisque j'ai un service de 127 personnes, dont 24 sont logés. Donc ici, vous êtes dans mon appartement de fonction, puisque je fais partie du personnel logé. Donc j'ai commencé ma garde hier, et jusqu'à mercredi prochain, je suis cloîtré en confinement à l'hôpital pendant 7 jours. Donc je fais ma journée traditionnelle, et après ma journée, j'ai mes deux téléphones sur moi, et je suis joignable 24 heures sur 24. Tous les jours, je vais au travail, tous les jours, je me dis, il va y avoir quelque chose de nouveau. Je suis là depuis 2010, je n'ai pas de routine. Madame Bachelot, à l'époque du H5N1, la grippe aviaire avait donné ordre à tous les hôpitaux de former l'ensemble du personnel. Et en fait, tout ce qu'on avait construit, si on remplace grippe aviaire par la Covid, c'est exactement la même procédure. Donc le confinement, la fermeture des restaurants, tout ça, on en avait parlé, on l'avait anticipé, on avait formé les gens. Donc la période Covid, en fait, ça a été la mise en application de tout ce qu'on avait transmis comme information au personnel il y a 15 ans. On a une cellule de crise qui s'est mise en place au niveau de Sorbonne Université, c'est-à-dire les 7 hôpitaux qui composent notre groupe. Ils prenaient des décisions et nous, on appliquait. Or, souvent, ça se traduisait par la transformation d'un service traditionnel en Covid. C'est-à-dire qu'il faut éviter les croisements. Donc, il faut sélectionner des ascenseurs, il faut les interdire d'accès aux personnes non Covid, il faut faire de la signalétique, mettre des sas de décontamination en place. C'est toute une organisation qui était assez dure au début, puisqu'on ne connaissait pas, et qu'on a appris à faire, et qui était très demandeuse de main-d'œuvre, mais pour lesquelles la solidarité hospitalière, l'esprit hospitalier existe. Mais j'ai eu des personnes qui ont travaillé 4 semaines non-stop. C'était tout le temps. Et tiens, aujourd'hui, on va ouvrir tel service à tel endroit. Il faut que ça tourne. Tiens, là, c'est pas possible. Il y a un croisement de personnes qu'on peut pas éviter. On annule ce qu'on a fait. Ben, on défait et on refait à côté. Mais c'était très militaire. On prenait des décisions, on contestait pas, on appliquait. Et c'est ça qui nous a sauvés, je pense. C'est qu'il n'y avait pas de contestation. Tous mes agents, mes 127 personnes, ils étaient main dans la main. C'est-à-dire que le chauffagiste a fait de la serrurerie, l'électricien il a donné un coup de main au menuisier. Les maçons, ben, ils ont aidé les autres aussi. Les serrureries, ils ont été débordés, mais ils ont tous eu la Covid. Ils ont tous été positifs. Les menuisiers, pareil. Et puis, dans des situations un peu spéciales, faire des étagères pour agrandir la morgue. Voilà, on n'était pas prêt à ça, mais à un moment donné, il fallait respecter aussi les gens qui sont partis. Et donc, il fallait construire des étagères. Donc, on a construit des étagères. Il n'y avait pas de limite. On a dû aussi prévoir l'arrivée de détenus de Fresnes. Donc avec la sécurisation des fenêtres qui n'existaient pas. Donc on s'est retrouvé un soir à 18h à souder des chaînes aux fenêtres pour éviter qu'ils puissent passer. C'était atypique, mais on a toujours été là. On était en nombre suffisant pour pouvoir le faire. Alors mes équipes ont été touchées à 24%. 24% de positifs sur une équipe de 127, c'est important. Cela s'explique comment ? C'est parce que mes équipes sont habituées à entrer dans des chambres de personnes à risque, mais ça se situe sur une chambre. Là, on attaquait des services entiers. On n'était pas préparé à ça. Jamais personne n'a rechigné à faire quelque chose. On y a tous été ensemble. On a un souvenir particulier, c'est quand on a vu arriver des sachets de chouquettes. Et on voit arriver les chouquettes, on dit c'est quoi ? Ben, c'est les services soignants qui vous les donnent, pour vous remercier de ce que vous avez fait. Et ça, c'est un petit truc qui marque, qui est gentil, auquel on n'aurait pas pensé et qui n'avait jamais eu lieu. C'était le geste des soignants pour remercier les services techniques, ceux qui travaillent dans l'ombre, en silence. On a fait ce qu'on pouvait pour améliorer la situation des soignants. Leur travail, c'était de soigner la Covid. Nous, c'était de leur permettre d'avoir ce qu'ils voulaient, quand ils voulaient et quand il le fallait. Il n'y avait plus trop de procédures. Puis, je m'arrange pour que ce soit fait, et tant pis pour la traçabilité. On verra ça après. Après la première vague, en fait, on a tout effacé. On a essayé de revenir à l'avant-Covid, c'est-à-dire prendre en charge tout ce qui est traditionnel et tout ce qui n'est pas Covid. Par contre, on a gardé tout le journal de tout ce qui a été fait. C'est-à-dire que ce qu'on a appris avec la première, à faire des choses qu'on ne savait pas faire, aujourd'hui, on sait les faire. Transformer un service traditionnel en service Covid, on connaît la procédure. Aujourd'hui, c'est un SAS, c'est de la signalisation, c'est du blocage d'ascenseurs, c'est l'aération des chambres. On intervient, on anticipe. Alors qu'avant, non, on attendait les directives, on a appris. Dès que j'ai vu la deuxième vague, on a fait des approvisionnements un peu plus conséquents pour tenir une éventuelle fermeture de certaines sociétés, comme pour la première vague. Donc on ne sera pas en manque de plexiglas, pas en manque de bois, pas en manque de tout ce qu'on a manqué pendant la première vague, puisqu'on n'arrivait pas à acheter, les sociétés avaient fermé. Ce qu'on a galéré. Hein. On s'en est bien sorti, sauf pour le plexiglas, où effectivement, c'était une donnée très très rare. Et les prix ont augmenté en conséquence. Voilà, comme quoi il n'y a pas de petit profit. Je pense qu'on n'a pas totalement récupéré psychologiquement et physiquement de la première vague et que la deuxième, en fait, on arrive sur un personnel fatigué et un peu désabusé. Mais la foi est toujours là, l'esprit hospitalier est toujours là. On fait face à nos devoirs, on navigue un peu plus à vue. Mais les données qui remontent des différentes cellules de crise, c'est que ça monte très vite. Le taux de personnes touchées est important, les taux de personnes qui viennent en consultation, les taux de personnes qui vont en hospitalisation, le taux de personnes qui rentrent en réanimation est assez important actuellement. On n'est pas à saturation, mais on voit que ça monte très vite et nos réserves, en fait, diminuent et on risque de repartir vers une saturation des services hospitaliers. Oui.
Ça y est, vous avez mangé, c'est bon ?
Oui, c'est bon, j'ai
un peu. Vous aussi ? Bon, tout va bien ?
Oui.
D'accord, vous manquez de rien ?
Je m'appelle Boy, j'ai 45 ans et je suis aide-soignante depuis 17 ans à la PHP. Je suis rentrée en tant qu'agent hospitalier et après j'ai passé le concours aide-soignant. Et maintenant, ça fait 8 ans que je suis en réanimation, bâtiment EOL à la Salpêtrière, premier étage, voilà. Ce que j'effectue dans mon quotidien, c'est travailler avec les infirmiers, soins d'hygiène, soins de confort pour les patients qui sont intubés. Et dès qu'ils sont extubés, on leur ramène leur premier repas. Et là, ils sont heureux. Et nous, c'est une fierté de nous dire qu'on a pu sortir du coma avec l'équipe paramédicale, ces patients-là. Pendant mon adolescence, j'ai voulu être médecin, mais les aléas de la vie ont fait que je n'ai pas pu. Mais voilà, c'est quand même un pied dedans, parce que être aide-soignante, c'est souvent on nous qualifie d'être entre guillemets les femmes de service. Mais non, on a un métier et les patients sont contents de nous avoir auprès d'eux quand les infirmiers ne peuvent pas parler ou même discuter de petites choses ou même essayer de les déplacer. Nous, on est là pour faire cette tâche-là et nous, on fait des soins d'hygiène par rapport aux toilettes. Même s'ils sont intubés, on leur fait des soins de bouche, on fait des soins de yeux. Même s'ils sont dans le coma, ils ont des selles, ils ont tout. En fait, le corps est là. Surtout quand ils sont intubés, ils ne bougent pas. Alors du coup, on est obligé de les masser tous les 4 heures. Voilà, on les rafraîchit pour qu'ils aient une peau nette et qu'ils n'attrapent pas d'escarres. Même si on a des matelas anti-escarres, il faut quand même tous les 4 heures les changer et faire tous les soins d'hygiène qu'on a à faire. Moi, je m'oublie à l'hôpital. J'oublie mes problèmes, j'oublie tout ce qui m'entoure. Je suis là pour mes patients. Sachant qu'il y a des hauts et des bas. Il y a des jours où on va arriver, le patient ne va être pas très bien et qu'il ne va pas vouloir que vous le nettoyez parce qu'il n'aime pas votre tête et tout. Bah, tant pis, il changera peut-être d'avis demain, mais on va le laisser, on va pas le frustrer, parce que déjà d'être dans un lit d'hôpital, c'est déjà très humiliant de se mettre à nu devant une personne qu'on ne connaît pas. Et par rapport à ça, on essaie d'aller petit à petit, de faire comprendre que oui, on est là pour eux et pas pour les juger. Quand le Covid nous est tombé dessus, ça a été très dur parce qu'on ne comprenait pas ce qui arrivait. Le jour où on a compris que c'était une catastrophe, c'est le jour où on a divisé la réa en deux, Covid et non-Covid. Et ça a été très, très, très dur, quoi. Le fait de s'habiller en cosmonaute, de porter des masques sur 12 heures. D'habitude, on voit nos sourires, on voit nos mimiques, mais là, on parle avec les yeux. Même si on est fatigué, c'est les yeux qu'on regarde. De mettre des lunettes, d'être en combinaison dans les chambres. En fait, ça a été un frein. On a eu vraiment, vraiment peur, quoi. Bon, on en a toujours peur aujourd'hui, parce que la deuxième vague est là et c'est la même chose. Moi, ce qui marque aussi, c'est que pendant le Covid, les dernières personnes que les patients qui étaient mourants voyaient, c'était nous. Et ça m'a énormément marqué. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est que les patients, on les prend autrement. Pas non plus stresser le patient dès qu'il arrive, ne pas se jeter sur lui, de dire oui, vous êtes là, vous êtes malade, de lui dire que oui, vous avez le Covid, mais on sera là pour vous aider, de lui mettre un masque, pour lui dire c'est juste pour vous donner un peu d'oxygène parce que vous n'arrivez pas trop à respirer. Et en fait, on est là pour les patients, c'est un métier qu'on a choisi, malgré qu'on aurait aimé que nos salaires soient en plus. Je suis payée 1 700 euros net. parce que ça fait 17 ans que je suis aide-soignante. Je ne peux pas parler que de moi, que du métier d'aide-soignant. C'est vraiment toutes les petites mains de l'hôpital qui veulent être augmentées. Et ça, j'espère qu'ils vont l'entendre. Mais 1 700 euros à Paris, c'est très dur, mais on essaie de se... on fait avec. On fait avec, mais voilà, c'est, il faut que le gouvernement nous entende un petit peu.
Oui, parce qu'on vous a promis des choses.
Oui, on nous a promis des choses. On a eu 183 euros, c'est pas énorme, mais c'est un premier geste que j'espère qu'on amplifiera au fur et à mesure.
Il n'y a aucun document, et la dernière fois qu'il est passé aux urgences ici, c'était en 2013.
La deuxième vague a commencé. On l'a vu arriver fin août, je pense, fin août. Et au mois de septembre, bah, c'est reparti. Là, on est en plein dans la deuxième vague. D'habitude, on est à 5, 3 lits Covid et là, on est à 15 lits Covid. On est au max. Mais je veux croire qu'on va s'en tirer. Si je pense que tout l'ensemble de la population se met à porter les masques et vraiment à rester chez soi si vraiment on n'a rien à faire à l'extérieur, je pense qu'on pourra éradiquer ce virus.
Ah, venez. Là, allez-y. Vous allez tout droit, à votre droite, gauche-droite.
France Culture, les pieds sur terre.
Je suis Fabrice, infirmier cardio-perfusionniste à la Pitié-Salpêtrière à Paris. J'ai 40 ans et je fais ce métier depuis 2014. Avant, j'étais aide-comptable. Je travaillais déjà à l'hôpital, j'étais dans les chiffres. Et après un certain nombre d'années, ça ne signifiait plus rien pour moi. Je voulais passer du côté obscur, comme on disait dans les services administratifs, donc du côté du personnel hospitalier. Et donc j'ai repris mes études à 29 ans, j'ai fait mon école d'infirmière à la Pitié-Salpêtrière, donc je suis un pur produit de la Pitié-Salpêtrière. J'ai découvert la circulation extracorporelle, c'est une technique qui permet d'assister le cœur et les poumons du patient, enfin de remplacer le cœur et les poumons du patient pendant l'opération, parce que le chirurgien pour travailler doit arrêter le cœur ainsi que les poumons, donc il faut une machine qui supplante ses fonctions vitales, donc la circulation extracorporelle. Et derrière cette machine, il y a une personne qui gère la machine pendant le temps de l'opération, qu'on appelle un perfusionniste. Donc c'est mon métier. Donc ça, c'est l'activité qui est au bloc. À côté de ça, j'ai une activité du MAC, donc d'unité mobile d'assistance circulatoire. C'est-à-dire qu'on va poser des assistances circulatoires, autant cardiologiques que respiratoires, avec des CEC miniaturisé, ce qu'on appelle des ECMO. CEC, c'est circulation extracorporelle. Donc c'est la même technique, c'est-à-dire qu'on va récupérer du sang veineux, l'oxygéner, le réchauffer si besoin et le renvoyer dans le patient. Par contre, avec une machine qui est transportable. Et c'est cette technique qui a été utilisée pendant la période du Covid. J'ai vu augmenter le nombre d'ECMO au fil des jours jusqu'à arriver à mars où on a eu vraiment le pic de pause d'assistance respiratoire sur des patients qui n'étaient pas tous âgés. On a eu un jeune de 32 ans qui est arrivé chez nous, intubé, à qui on a mis la machine, qui est resté chez nous 3 semaines et qui est sorti sur ses 2 jambes. Sa femme est venue le chercher. Du coup, il nous a envoyé une photo de lui avec un petit mot de remerciement en disant « Merci, grâce à vous, je suis encore là et je peux profiter de ma famille. » Donc, c'est encourageant. Donc, quand on part poser ses assistances respiratoires, ce sont des patients qu'on ramène chez nous en réanimation, à la Salpêtrière en réanimation. Au bout d'un moment, quand même, notre réanimation a été pleine. On a été donc obligé de laisser les patients parfois sur place dans des centres où ils n'avaient pas spécialement l'habitude de gérer ces machines et où il n'y a pas de perfusionniste. Ce qu'il faut savoir, c'est que le métier de perfusionniste est très rare. On a une ligne 24 heures sur 24 qui ouvre 24 heures sur 24 avec toujours un perfusionniste d'astreinte. 7 jours sur 7, jours fériés, week-ends. On a fait jusqu'à 7 sorties en une journée, ce qui est énorme, sachant que chaque sortie dure environ une moyenne de 5 heures pour chaque patient. On en a fait des astreintes de 25 heures. Donc c'est très lourd en termes de charge de travail, très lourd en termes de logistique, parce que quand on part, vu qu'on va dire on n'est pas chez nous, on part avec tout notre matériel, donc nos boîtes d'instruments, nos casaques stériles, nos compresses, nos canules, nos machines, enfin on va avec tout ce qu'il nous faut. Donc logistiquement, c'est assez encombrant et puis c'est assez lourd. Pour certains patients, on y allait, on se disait bien que ça allait être compliqué, parce que on pense qu'on était un peu au-delà du fameux délai où ça peut être efficace. Mais la politique est de donner sa chance à tout le monde. Et on faisait ce qu'il fallait pour que ça fonctionne. Ça a fonctionné parfois, et parfois, effectivement, ça n'a pas marché. Donc voilà. On s'est trouvé à un moment où on a été très limité en termes de machines, parce que le nombre de machines n'est pas infini. Ce qu'on appelle notre parc d'ECMO diminuait énormément, que le nombre d'appels, lui, ne diminuait pas, et qu'on allait obligatoirement se trouver à un moment donné limité, enfin qu'on ne pourrait plus partir. Et la question, du coup, était évidente à se dire, du coup, il va falloir faire des choix sur des patients. C'était pas moi qui faisais ce genre de choix, donc j'ai laissé ça au réanimateur. Mais on a toujours eu, Dieu merci, au moins une machine de dispo. On travaillait beaucoup, on dormait pas beaucoup. On a fait des semaines de 6 jours sur 7, avec une journée de repos, et puis on enchaînait, on reprenait le lundi, à rester pour pouvoir pallier au manque de personnel, parce que des collègues ont eu le Covid. Donc comme je disais, on était en quarantaine, donc on était en sous-effectif pour poser toutes ces machines pendant cette période. Ça a été une période très compliquée où je volontairement mis la tête dans le guidon, vraiment, pour pas me rendre compte, en gros, de ce qui se passait autour et pour pas me poser trop de questions. Personnellement, ça a été compliqué, mais ça s'est bien goupillé. C'est-à-dire que ma femme avait accouché depuis 3 mois, on avait un petit. Elle travaille au SMUR de la Riboisière à Paris, c'est comme le SAMU. Et donc, elle a été rappelée aussi rapidement pour faire face au transfert croissant. Oui, ce que j'ai pas précisé, c'est que nous, d'accord, on partait poser ses assistances, on rapatriait nos patients SAMU, mais le SAMU était eux aussi débordés. Normalement, quand on va poser ses assistances, on n'attend pas vraiment le SAMU, ils sont assez disponibles. Si on attend une demi-heure, c'est bien beaucoup. Là, parfois, on a dû attendre 2 heures et plus, voire 3, parce qu'il n'y avait pas de SAMU disponible. La deuxième vague était prévue, on s'y était préparé. On a étoffé notre parc d'assistance circulatoire, on avait vu avec les labos à l'avance pour avoir du matériel. Et ce qui est bien et pas bien, c'est qu'on sait à quoi s'attendre. On y est un peu plus préparé, on va dire, même si on n'est jamais préparé à ça. La deuxième vague peut être plus forte que la première et voilà. Donc c'est bien de ce côté-là. En même temps, c'est pas bien parce que justement, on sait à quoi s'attendre et donc on sait la fatigue et la charge mentale et tout qui nous attend. On a aussi plus qu'on voyait moins avant, ce sont les atteintes cardiaques. C'est-à-dire, ce sont des patients qui plutôt jeunes.
Pour la deuxième vague,
voilà, qui ont eu le Covid, qui n'ont pas spécialement développé de pathologies respiratoires, donc pulmonaires, et par contre qui derrière vont avoir des conséquences cardiaques. Donc sur ces patients, on va poser du coup des assistances circulatoires cardiaques et plus respiratoires. Pendant cette période de Covid, par rapport au Covid, il y a eu énormément de décès. Et malgré les défenses qu'on peut développer, on est bien sûr touché. On est bien sûr touché, on est dedans, on est parfois avec la fatigue, à fleur de peau. De voir tous ces gens mourir, on ne s'y fait pas. On s'adapte, c'est-à-dire que chacun va développer un système de défense par rapport à la mort. Moi, je fais personnellement beaucoup de sport. Enfin, je sors beaucoup, je fais du vélo, de la course à pied, de la natation. J'adore faire de la moto, donc je fais des sorties moto. Ça me permet d'évader et de sortir tout ça de moi. Et je pense que c'est la raison pour laquelle, face à la deuxième vague, il y a beaucoup d'infirmiers qui vont faire autre chose qu'infirmier ou qui changent de service parce que la charge a été violente et lourde sur la première vague. Donc beaucoup d'infirmiers, en tout cas de ceux que je connais, soit vont faire des écoles pour faire autre chose, soit se sont reconvertis. J'ai une collègue qui a fait une formation de psychologue pour chats et chiens, donc qui a arrêté carrément le métier d'infirmière et qui a ouvert sa boîte de dog-sitter et de cat-sitter, ainsi que voilà, ça a laissé des traces. Je pense d'autant plus dans notre service parce que on est souvent aux premières loges des grandes catastrophes, les attentats qu'il y a eu à Charlie Hebdo, au Bataclan et tout ça, on a été sollicités. En fait, on enchaîne quand même depuis quelques années des charges psychologiques et physiques assez conséquentes, ce qui explique ce turnover. Le revers de ce métier, ce qui fait qu'il n'est pas très attractif pour certains, c'est que malgré nos responsabilités, c'est-à-dire quand même que pendant l'opération, on a la vie du patient entre nos mains, malgré ces responsabilités et cette charge, en fait, nous sommes, en tout cas à la pitié, infirmiers. On a un salaire d'infirmier. Aujourd'hui, je crois que l'infirmier qui commence, il doit être à, je crois, 1005, 1006, si je me trompe pas, je peux me tromper. Et bien entendu, je gagnerais beaucoup plus si j'allais travailler dans le privé, parce qu'il y a aussi de la circulation et de la chirurgie cardiaque dans le privé. Je ne suis pas dans le privé parce que l'avantage du public, c'est qu'on a accès à de la technologie de pointe. Chose qu'il n'y a pas toujours dans le privé. C'est-à-dire que dans le privé, il y a quand même une recherche de bénéfices. C'est sur des cliniques privées, donc voilà, il faut que ça tourne. Je ne dis pas qu'une certains travaillent très très bien, au contraire. Mais moi, je compte rester. J'adore ce métier. Il n'y a pas un jour, même des astreintes de 25 heures, il n'y a pas un jour où j'ai regretté d'avoir changé de métier. Je pense que je suis vraiment à ma place.
Gracias a tu cuerpo por haberme esperado. Tuve que perderme para llegar.
Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre, un reportage de Stéphanie Thomas réalisé par Clémence Gross et mixé par Philippe Mercher. Merci au personnel de la Pitié-Salpêtrière et à Anne-Clémence Géhanneau. Merci à Olivier Taïeb et Isabelle Weckstein, auteurs du documentaire « Quand l'hôpital retient son souffle » sur France 5, encore disponible en replay jusqu'au 17 novembre. Notre attaché de production, c'est Mélissa Foust et notre stagiaire, François Bréus. Vous pouvez écouter ou podcaster cette émission sur le site de France Culture et sur l'application Radio France.